Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Bikfar, Farbik, ou bien Farbik, Bikfar. Chronologiquement, c'est bien Farbik qui naît en premier. Près de 40 ans plus tard, Bikfar avait suivi. De quoi s'agit-il? De documentaires avec une larme de fiction, mais les premières prises étaient toujours les meilleures. Au début des années 80, dans les Nuits magnétiques, Georges Rouquier revenait sur le tournage de Farbik, en parallèle avec celui, tout récent, de Bikfar. Les influences de Georges Rouquier, entre autres, c'est étrange, Charlie Chaplin et Alexandre Dumas. Nuit magnétique par Laura Adler, réalisation Josette Collin, première diffusion sur France Culture le 5 avril 1984.
Bonsoir. Ce soir, spécial cinéma, Bikfar, Farbik.
Moi, j'adore tourner avec des gens qui ne sont pas comédiens. J'adore être près de la vie, près de la vérité, ne serait-ce que par les gueules, les mains, les gestes, tout ça. Aucun comédien ne pourrait me donner ça.
Ce qui fait la valeur d'un film, soit celui de 45, soit celui de Bandanam, c'est le naturel. Vous voyez que c'est naturel. C'est naturel.
Le cinéma vérité, moi, je ne suis pas d'accord. Ça couvre tellement d'erreurs et de conneries, si je puis dire, que vraiment, là, je ne suis pas d'accord. Vous comprenez, on surprend la vérité, vous surprenez des fragments, mais vous ne surprenez pas une heure et demie de film comme ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Vous savez, si quelqu'un me verse, attention. Quand j'explose, ça y va. D'ailleurs, il a étudié les personnages avant de donner les rôles. Oui, il nous a étudié, il a dit « toi tu feras ce rôle, toi tu feras ce rôle ».
Paris, 1929. Un jeune ouvrier typo, fou de cinéma et amoureux de Charlie Chaplin, réussit enfin, avec ses maigres économies, à s'acheter une caméra. Tourner des films, c'est en effet le rêve de sa vie. Il descend alors dans la rue et fait son premier court-métrage. Aveyron, 1944. Georges, le fils d'Albert, celui qui était mort à Verdun, revient dans la ferme paternelle avec une caméra super parvo, des grandes malles pour le son et une toute petite équipe technique. Pendant 11 mois, Georges va filmer au rythme des saisons. Fin de l'automne, hiver, printemps, été, puis automne à nouveau. Georges filme la vie quotidienne de sa famille dans le petit village de Goutreins. Cannes, 20 septembre 1946. Début du premier festival international de films qui aurait dû avoir lieu en septembre 1939. Commence alors ce que certains journaux, en première page, n'hésiteront pas à appeler l'affaire Farbik. Le premier long-métrage de Georges Rouquier, Farbik ou les quatre saisons, n'a pas été retenu au comité de sélection, mais les rumeurs extrêmement positives vont bon train et Farbik, va réussir coup sur coup le Grand Prix de la critique, puis ensuite le Grand Prix du cinéma français. Paris, 11 février 47. Le film reste en exclusivité 12 semaines au cinéma Madeleine. Succès donc inespéré pour un film de la catégorie dite documentaire, interprété en plus par de vrais paysans et parlé en patois aveyronnais. Rouquier va être alors étiqueté tour à tour de documentariste, de néo-réaliste et de poète bucolique. Il abandonne alors la typo et se consacre entièrement au cinéma. Hélas, sans argent, sans financement et dans un très grand isolement. Hiver 83, Georges réalise enfin son rêve, retourner à Farbik et filmer sa famille et son travail 40 ans après. Avril 84, les miracles arrivent et vous connaissez la suite. Partout dans la presse, on fête Georges et son nouveau film. De grandes affiches bleu ciel s'étalent partout dans les villes. Et Georges, qui a si longtemps vécu dans l'isolement, découvre, stupéfait, qu'on ne l'a pas vraiment oublié. Ce soir donc, Farbik, Big Far, portrait d'un artiste qui se dit lui-même artisan du cinéma français, avec en prime des commentaires d'acteurs, d'agriculteurs aveyronnais, enregistrés lors de la première mondiale de Big Far la semaine dernière dans la halle aux bestiaux d'Urignac.
Que je suis allé au cinéma, je vous dirai pas l'année parce que c'est effroyable. Les places les moins chères, c'était derrière l'écran. Après, les places les moins chères sont montées là-haut au balcon, au poulailler, et au milieu il y avait la cabine de projection que le gars était laissé là, dont il laissait la porte ouverte pour les cinéastes parce qu'il y avait de chaleur. C'était des arcs, ça. Et de temps en autre, s'il y avait des petits accidents, des coupures, coupées, recollées, alors je recueillais religieusement les images avec ce parfum de collodion, qui était extraordinaire. Et puis après, alors, les places les moins chères sont passées au premier rang devant l'écran. Elles n'ont plus bougé depuis. Mais donc, j'ai vu les plus grands films de la période du cinéma muet. Et alors, je ne sais pas, mais comme j'étais un esprit curieux, je me suis souvent posé la question quand quelque chose m'intriguait. Comment ils ont pu faire ça, vous comprenez? Et je ne trouvais pas toujours, bien sûr, tout seul. Mais un jour, j'ai vu les 10 commandements de Cécile B. DeMille, le premier, c'est-à-dire de 1922. Et là, il y avait le passage à la mer Rouge. Et alors ça me travaillait, ça me tarabustait. Et puis, à quelque temps de là, j'ai trouvé dans des revues l'explication de ce trucage, qui était tellement extraordinaire que je dirais qu'on en avait parlé dans le monde entier. Et ainsi, je me suis formé sans le savoir. Sans le savoir, vraiment. Mais il n'était pas question, même après, quand je suis monté à Paris, j'avais 16 ans et demi pour travailler. Il n'était pas question que je fasse du cinéma, vous comprenez, c'est une chose qui me paraissait tellement hors de portée. Mais alors à Paris, toujours fanatique de ce spectacle. Évidemment, je fréquentais les Ursulines, le Ciné Latin qui a disparu, le Studio 28 et le Cinéma des agriculteurs aussi, rue d'Athènes. Et un jour, au Studio 28, je vois en première partie un petit film qui s'appelait « La marche des machines » d'un Ukrainien réfugié en France qui avait pour nom Eugène Deslav. D-E-S-L-A-W. 8 jours après, je vois dans une revue du cinéma que ce film-là avait coûté 2500 francs. Évidemment, 2500 francs en 1928, c'était quand même pas mal. Mais, ça n'était pas tout d'un coup hors de ma portée. Alors, j'ai fait des pieds et des mains pour retrouver des labs. Je l'ai trouvé, il m'a dit comment il faisait. Il avait acheté un petit appareil à ressort, 35 mm, c'est comme ça il travaillait. Alors j'ai moi aussi acheté un de ces appareils d'occasion, on en trouvait encore, et il m'a donné de la pellicule, j'ai fait des prises de vue dans Paris, comme ça, pour en voir. Et puis, au bout d'un moment, l'année d'après, je me suis dit, rien à faire, que je fasse quelque chose. Alors je suis descendu chez moi dans le midi, c'est-à-dire Montpellier, surtout Lunel. Lunel, je ne sais pas si vous le savez, c'est le pays de Louis Feuillade, le créateur du Judex, c'est là qu'il est enterré. Et j'ai tourné Vendange à Lunel, chez un oncle maternel. Ça a été mon premier film qui est passé, je crois, la semaine d'après, après le programme où il y avait les chiens andalous, Studio 28. Et puis, malheureusement, après, le parlant est arrivé, ça a tout fichu en l'air, vous comprenez, 24 images secondes, le son, bon, impossible. Alors, tout en travaillant toujours à l'imprimerie, car j'ai oublié de vous dire que j'étais typographe, typolinotypiste, à ce moment-là, j'ai travaillé la nuit. Et le jour, je courais un peu partout. Alors, Deslab m'avait pris comme grouillot vaguement pour faire du doublage, ce qui m'a appris le son, ce que c'était que le son, que je ne connaissais pas. Et puis, un jour aussi, j'ai été vaguement grouillot dans une équipe de long métrage. C'était le premier film de Claude Vermorel. Et puis après ça, il y a eu la guerre, il y a eu tout ça, et bon, le cinéma... Mais quand même, j'y pensais toujours. Jusqu'au jour où, tout à fait par hasard, j'ai rencontré quelqu'un de ce qui était alors, de ce qui a donné un organisme qui a donné plus tard le Centre du cinéma, mais qui s'appelait à l'époque le COIC, je ne me rappelle plus comment c'était défini. Et j'ai appris par lui que l'État français était prêt, ne demandait pas mieux que d'aider des jeunes réalisateurs, etc., à faire des courts-métrages. Car à l'époque, l'État français ne pouvait aider que les courts-métrages pour commencer. Alors j'ai dit, mais c'est que moi j'aimerais bien faire du cinéma. Puis vous avez un sujet. Je dis, mais oui, j'en ai. Qu'est-ce que c'est? Le Tonnelier. En réalité, je ne l'avais pas. Et bon, très bien, mais allez, venez me voir à tel endroit pendant tel mois, etc. J'ai donc rapidement écrit Le Tonnelier, puis je suis allé le porter. Et puis un beau jour, il m'a mis en rapport avec un producteur qui s'appelait Étienne Lallier. L'État, je crois, avançait un peu d'argent remboursable, bien sûr, par la suite. Et c'est comme ça que je suis parti faire Le Tonnelier à Lunel. Ah, le producteur avait réuni 1800 mètres de pellicule. C'est tout ce que j'ai. Il me dit, mais si vous pouvez l'économiser un peu. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais enfin, je n'ai pu lui rapporter que 50 mètres. Mais Le Tonnelier fait 623 mètres. C'est-à-dire que j'ai utilisé moins de 3 fois le métrage. C'est quand même... Remarquez, c'était par la force, mais enfin... Et c'est comme ça que j'ai commencé, mais j'étais toujours un petit piste. Hein. J'avais accumulé les remplacements pour essayer d'avoir plus mes vacances, plus un mois en plus. Mais quand même, j'ai monté Le Tonnelier tout en étant un petit piste la nuit. Et puis un beau jour, il y a quelqu'un qui s'appelle André Robert qui a créé le congrès du court-métrage à Paris. Ça a été une très très grande manifestation. Et tout d'un coup, ce Tonnelier que nous avions montré mais dont personne ne parlait, tout d'un coup, tout le monde en a parlé. Et au cours de ce congrès, dans le jury, il y avait Marcel Carnet. Marcel Carnet s'est battu pour Le Tonnelier. Mais finalement, comme ça arrive souvent, le jury n'a pas pu se mettre d'accord. Et alors, ils ont décerné 3 grands prix. Il y avait le Rodin de René Lucot. Il y avait À l'assaut des aiguilles du diable de Marcel Ishak. Et il y avait Le Tonnelier. Et ça, je veux dire qu'à partir de là, ça a été un peu mon démarrage. Mais encore pas tout à fait. Je continue à travailler quand même. Mais à ce moment-là, se pointait le service du travail obligatoire. C'est-à-dire les départs en Allemagne. J'avais des copains qui étaient déjà partis. Et moi, j'étais à la limite, hein, j'allais partir. Alors, j'ai parlé au prot. Le prot, c'est le contremaître dans l'imprimerie. Je ne sais pas si vous le savez. J'ai dit, non, si je m'en vais, est-ce que tu peux me rayer des listes? Oh, il dit, ça, t'inquiète pas, je te rayer des listes, on ne saura pas, on saura rien. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je vais faire du cinéma. Il dit, fais attention, parce que si jamais tu loupes ton coup, tu ne peux plus revenir. Nous avons les Allemands sur le dos, il n'y a rien à faire, on ne peut plus reprendre personne. Alors je me suis jeté à l'eau comme ça, voilà. Voilà comment je suis arrivé à faire du cinéma. Alors moi, je suis né à Lunel. Des tonneliers, j'en avais vu fabriquer des tonneaux. Ça ne veut pas dire que je connaissais bien. Mais avant d'écrire mon sujet, j'ai acheté un bouquin sur le métier, j'ai tout étudié, et à partir de là, j'ai écrit mon scénario. Quant à Farbik, le producteur, c'était toujours le producteur Lallier d'ailleurs, qui m'avait, si je puis dire, dans son collimateur. Un ami à lui, un grand reporter, lui avait proposé une idée, faire un long métrage sur les saisons, la nature, et en même temps les travaux des paysans, tout ça mêlé. C'était deux pages dactylographiées d'une tournure évidemment littéraire, je dirais. Mais Lallier était emballé par cette idée-là. Et alors c'est là où je lui ai proposé Farbik dans l'Aveyron. Il me dit, oh, l'Aveyron, c'est pas pittoresque, c'est pas ici, c'est pas là-bas. Je lui ai dit, écoutez, qu'une solution, il n'y a rien à faire, il faut que vous veniez. Hein, je pars en avant, vous venez. Hein, vous verrez les gens, vous verrez la ferme, vous verrez le pays, et puis après vous déciderez. Alors je me rappelle que ce jour-là, c'était un dimanche. La famille avait mis un petit peu les petits plats dans les grands. Hein. Et alors, ma tante, car c'était ma tante, a amené la grande soupière avec le potage. Et à ce moment-là, le grand-père s'est levé, a pris la louche, l'a tendu à M. Lallier et lui a dit, Monsieur Lallier, voulez-vous nous faire l'honneur de nous servir? Moi, j'étais sur le cul. Et quand on est reparti, Lallier était emballé, d'accord, ça y est, c'est fini. D'abord parce que le pays est beau. Et puis ensuite, avoir comme ça une ferme à sa disposition, avec des gens tout de même que je connaissais bien, c'était énorme. Bon, alors quant au reste, il était question de faire un film qui s'appelait Les Quatre Saisons. Alors moi, c'est bien joli, Les Quatre Saisons, mais il faut aussi une patte humaine là-dedans. Alors j'avais prévu dans mon idée, mais il faut dire que j'avais les idées larges, qui ne correspondaient pas tout à fait aux moyens que j'avais. J'avais prévu de faire quatre séquences musicales sur la nature, hiver, printemps, été, automne, et d'intégrer là-dedans quatre séquences humaines avec le déroulement de la vie. Et je me suis mis donc à écrire une histoire. D'ailleurs, on peut vérifier tout ça, puisque à l'époque, j'écrivais directement, moi, le découpage technique, avec les dialogues en face. Je passais pas par la phase intermédiaire de scénario, adaptation.
L'engourdissement de l'hiver a cessé. Germination commence. Toute la puissance de la terre contenue pendant des mois sort. La vie reprend. Le sang bouillonne dans les artères.
Alors donc, je suis parti là-dessus, mais si vous voulez, au très fond de moi, il y avait une chose, en fait. Je voulais faire un film intemporel, parce que je ne voulais pas que ce film rappelle la guerre. Hein. Donc, celui qui était prisonnier, on n'a pas parlé. Je ne voulais pas, si ça rappelle la guerre, ça rappelait le marché noir. Je ne voulais pas non plus de ces discussions, c'était un autre film. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est restituer cette vie qui, depuis que j'étais enfant, car j'étais allé plusieurs fois étant enfant, était la même. Vous comprenez? Et c'est exactement ce que j'ai fait. Finalement, c'est aussi, c'est beaucoup, un film de souvenirs d'enfance sur la vie paysanne classique. Et puis une chose, c'est le printemps, c'est l'éclatement de la vie. Alors ça, pour moi, c'était terrible. Je voulais là une séquence extraordinaire. Parce que, depuis longtemps, je ne le formulais pas comme ça, peut-être, à l'époque, mais depuis longtemps, si vous voulez, je comprenais que l'homme et la femme, bien sûr, sont des êtres vivants qui subissent les mêmes lois de la nature que les animaux, et que donc la poussée du printemps, dont on rigole, le printemps chante dans les buissons, etc., dont on rigole parce que le gars est boutonné, tout ça, c'était quand même une poussée de la nature formidable et vraie, et qu'il fallait pas en rigoler. Voilà. Alors, j'étais même allé au très loin, pas tellement loin, mais enfin, il y a des choses qu'on m'obligeait à couper. Par exemple, j'avais un iris, là, parce que, attendez, faut couper en deux. J'avais une équipe à Paris qui faisait les prises de vue dites scientifiques, que moi je voulais étudier, que je voulais utiliser comme élément poétique. À Adam, il y avait un iris, par exemple. Alors, un iris, c'est comme une forme de cigare, pointu, et tout en spirale, comme ça. Et au fur et à mesure, il grossit, cette espèce de cigare. Et puis après, d'un coup, il éclate, ça saute, extraordinaire. Alors moi, j'avais mis... le cheval, la jument qui se rencontre, le cigare qui grandit, le taureau qui saute, la fleur qui s'ouvre. C'est pas possible. Il a fallu le couper. Bon. Oh, quand même, j'ai pu garder Rock qui ramasse un outil, regarde sous les jupes d'une femme qui est en haut de l'échelle. Bon. Il a jamais compris d'ailleurs comment ça s'est fait, parce qu'il dit, moi, j'ai jamais regardé une bonne femme en haut de l'échelle. Je dis, c'est bien, t'as jamais regardé. Mais enfin, dans le film, tu regardes. Enfin, c'était plein de trucs comme ça. Et puis, il y avait des choses aussi d'avance, notamment, il y a des phrases sur lesquelles je tenais beaucoup.
C'est pour ça que les jeunes filles rêvent. C'est pour ça aussi que, au fond de leur cave, les pommes de terre germent.
Ça, j'y tenais beaucoup aussi. Enfin, des tas de choses comme ça.
Maintenant que ton père est d'accord, on pourrait se marier bientôt. Au printemps.
Si le printemps ne revenait plus jamais.
Que tu es bête. Le printemps, ça revient toujours.
Ce que je voulais, c'est être scrupuleux, c'est bien montrer les détails de leur vie, enfin, le labeur, les peines, les joies, etc. C'est ça que je voulais.
Dis, Pépé, le civil, que ça à la maison?
Ah oh oui, tu sais, elle a beaucoup plus vieille que moi. C'est la maman de ma mère, ma mémé, qui a commencé. Il y avait un petit pré ici et une étable. Ça s'appelait déjà Farbico. Là en dessous, il y a encore la vieille cheminée des anciens. À ce moment-là, le travail était encore plus pénible. Il a fallu la remuer la terre, tu sais. Laura, Semena, Soukla, Misuna, Escudri.
Dès que le film a été décidé à peu près, dès 43, j'ai commencé à parler beaucoup avec le grand-père, qui d'ailleurs était un gars extraordinaire, vraiment un grand seigneur, et qui m'a raconté un peu sa vie, un peu comment ça s'était passé. Par exemple, une année, je suis arrivé, tout d'un coup, j'ai trouvé la faucheuse, que l'on voit dans le film d'ailleurs, à propos de la fenaison. Je dis, mais pour toi, la mécanique, on doit... Bah, il dit, tu comprends, tout d'un coup, tu vois le gars là-bas qui a acheté une faucheuse. Alors, sans vouloir trop le regarder, quand même, tu regardes, tu te dis comment ça marche, hein, bon Dieu, ça va vite. Alors après, tu vas à la foire, tu regardes les machines, tu poses des questions au gars. Il te dit le prix, évidemment, c'est cher. Et tu te dis, est-ce que c'est pas un attrape-nigaud? Alors après ça, moi, je vais à Rodez voir encore, je réfléchis beaucoup. Puis finalement, je me dis quand même, ça vaut la peine. Et c'est comme ça qu'il a acheté la faucheuse, et c'est comme ça qu'il a acheté la moissonneuse-batteuse, entre autres. Je veux dire, c'était un bonhomme vraiment, vraiment intelligent et d'une humanité extraordinaire. D'ailleurs, je crois que c'est lui surtout qui a emporté la décision.
Et alors, c'est toujours cette maison.
Qu'est-ce qu'il y a?
Tu sais bien comme il est, Rock.
Il est décidé, hein? Il te faut le remuer un peu. On finit par croire qu'il est le plus bête de tous.
Eh oui, je l'ai laissé trop faire.
Oui, parce que tu lui as donné le cœur à son mariage, il se croit le maître.
Il n'a pas le reste encore, moi je suis là.
Il y a longtemps que j'y pense à tout ça. Écoute, maintenant que vous n'avez pas trop de travail, prépare ta pierre, ton sable, ton bois, et Henri t'aidera bien. Et après, que tu n'auras qu'à appeler le maçon, il faudra bien que l'aîné s'y mette. Laisse-moi faire, je te le ferai comprendre, moi.
Alors, en plus, moi, j'avais beaucoup d'affection pour cet homme parce que mon père est mort à Verdun et quand j'allais là-bas, j'étais le fils de celui qui a disparu. J'ai toujours été très bien accueilli. Et je me rappelle qu'un jour, j'étais venu, je pourrais avoir 13 ans, voilà, 13, 14 ans. J'étais venu passer une quinzaine de jours. Et alors, il m'a raccompagné au fond du pré. Et puis là, il m'a dit, bon, ben maintenant, je te laisse. T'embrasseras bien ta mère pour nous, etc. Et puis, il a mis la main dans son gilet. Il a sorti un écu de 5 francs en argent. Il m'a dit, ça, c'est pour toi. Alors, je n'ai pas compris, sûrement. C'est beaucoup plus tard. Quand j'ai compris la valeur de ce que ça représentait. C'est extraordinaire. C'est pas moins extraordinaire. Parce que, à l'époque, il vivait en autarcie, vous comprenez. Il pouvait pas faire autrement. Donc, il mangeait ce qu'il fabriquait beaucoup. Les patates, le blé, la farine pour faire le pain, tous les légumes, la volaille. Alors, il y avait des oies, il y avait des dindes, il y avait des poules, il y avait des porcs aussi. On tuait le porc chaque année, etc. Il vendait la laine des moutons. Mais, comment dire, la monnaie ne rentrait pas beaucoup, vous comprenez. C'était tout un problème pour vendre une bête, pour vendre quelque chose. Donc, d'argent, il n'y avait pas beaucoup. Et c'est beaucoup plus tard que je me suis rendu compte de ce sacrifice énorme. Comme il avait beaucoup souffert sous l'occupation, pour des tas de choses, on oublie ça aussi. En effet, il y avait le marché noir, il y en a beaucoup, il y avait beaucoup, si je puis dire, de tiraillements entre les citadins et les paysans. Parce que les citadins ne comprenaient pas d'aller chez les paysans, qui avaient tous ces saucissons, ces jambons, et qui ne pouvaient pas les vendre. Ils oubliaient simplement, ces malheureux, que ça, c'était la consommation de toute l'année, vous comprenez. Bon, d'une part. D'autre part, quand les paysans avaient besoin de chemises, de pétrole, de bougies, etc., ils disaient oh, « Non, non, je veux pas d'argent. Non, non, tu me donnes un jambon, tu me donnes... » Voilà, ça se passait comme ça. Alors, donc, ils ont beaucoup souffert, ils manquaient de pétrole, ils manquaient de bougies, et à ce moment-là, ils auraient bien voulu l'électricité. Alors, je dis, moi, si je tourne, j'ai besoin d'électricité. Donc, quand on s'en va, on vous laisse tout. Le transformateur, s'il y avait une ligne à haute tension qui n'était pas très loin, et l'installation. Et c'est comme ça que le marché s'est fait. Il faut dire que ça n'a pas été facile non plus, parce que sous l'occupation, tout le monde ayant tiré, comme on dit, ayant tiré sur l'électricité, beaucoup de transformateurs en France avaient grillé, et ça posait des problèmes. Alors, la production a réussi à trouver, à acheter un transformateur dans la région du Nord, qui a été envoyé dans la région de Bordeaux pour remplacer notre transformateur, qui lui est venu jusqu'à Villefranche-Jouhet, on l'a posé. Là, un gars avec une camionnette est allé le chercher, l'a déposé sur la route, pas très loin de Farbic quand même. Avec le charabon, on est allé chercher, on l'a amené à Goutreins, on a descendu celui de Goutreins, on a mis celui-là à la place, et nous avons pris celui de Goutreins pour l'installer à Farbic. Ce qui a fait des histoires d'ailleurs, parce que celui de Goutreins étant plus faible, celui qui avait la scierie à Goutreins nous en a voulu à mort, mais ça j'y pouvais rien, moi. Bon, je veux dire par là, c'était quand même une très très grande difficulté hein, à l'époque, parce que n'oubliez pas que j'ai commencé le film en 1920, en octobre 1944. que la guerre ne s'est terminée qu'au mois de mai 45 et que nous manquions de tout. Il fallait des bons d'essence, il fallait des bons pour les pneus, nous n'avions qu'une malheureuse voiture, bien sûr. Et puis, nous manquions de pellicule. Ce qu'on sait peu, c'est que dans le film Farbik, nous récoltions des chutes, des petites boîtes de pellicule à droite à gauche. Dans le film, il y a 7, vous entendez bien, 7 marques de pellicule. Hein? Donc l'unité de l'image, hein, bon, ce qui posait des problèmes affreux. Et chaque fois qu'on recevait des boîtes d'une nouvelle marque, et même de la même marque, mais c'était de notre, comment dirais-je, de notre période de fabrication, on faisait des bouts d'essai. Alors, un bout d'essai, puis le soir, on fermait les rideaux, tout, puis dans un vase, l'opérateur trempait son petit bout, après il trempait dans la flotte, et puis après on regardait ce que ça pouvait donner. Voilà comment le film a été fait.
Oh. Bonjour, André.
Bonjour. Il fait beau aujourd'hui.
Oui, il fait pas froid.
Où tu vas?
Je vais à Routrain.
Hein? Et ton père n'a toujours pas décidé à faire un appel d'électricité avec nous?
Oh, moi, je ne m'occupe pas de cela.
Vous voyez que c'est naturel. C'est naturel.
Je voulais surtout pas qu'il lise le scénario pour qu'il n'apprenne pas le texte. Parce que dans le film, pratiquement, toutes les prises, enfin la majorité des prises sont des premières. Après, quand ça loupait et qu'il fallait recommencer, ça devenait de plus en plus mauvais.
Et on a fait ça 3 ou 4 fois. Parce que quand on tourne, c'est pas la première. Et c'est toujours quand on tourne, c'est la première fois qu'est la meilleure. Et la première et la deuxième, ce sont les mieux faits. Et puis, si tu en fais 3 après, à la fin, tu le fais tant mieux que mal. Et la première fois, tu le fais ton possible, autant que possible, autant que tu peux. Et la deuxième, pareil. Ça, c'est ça.
Premier jour de tournage, je dis bon, demain on vient, qui commence à tourner. Hein. Bon, j'arrive le lendemain, qu'est-ce que je vois? Tous les mômes, raclés, peignés, habillés des dimanches, tout. Oh Seigneur! Oh Seigneur, j'ai piqué le cri, je veux pas de ça! Allez, allez, allez! Tous les jours, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont bien, comment ils vont devant l'école? Comme, eh bien, très bien, j'avoue, comme ça. Et puis, j'ai foutu les cheveux en l'air, et puis j'ai dit, oh, qu'il n'y a pas d'histoire, t'as aussi ta casquette, et elle arrivait d'habitude, tu l'as de mettre tout dans ta casquette de travers. J'ai dit, je veux ta casquette de travers, comme tu l'as d'habitude, voilà. C'est sûr, c'est pas... ce sont des petits trucs, bien sûr, mais quoi? C'est retrouver, recréer la vérité, c'est pas autre chose, vous savez.
Alors, la voulait toujours, cette électricité? Pas que no la volem pas. Ja vam decidir fer la maison cet any. Mentre nosaltres te decidim, vola voler plus? Se t'ha dit bien, se pas que no la volem pas, solament.
Tu saps ser de l'arxar.
Ara no pot pas tu fer. Mais alors, on sabe pas ce que vole. Se croia que tu no la voles pas, tu. I qui se vien tolete?
Alors, ce sera toujours pareil. La lampe qui fume, le pétrole qui pue. Il faut se crever les yeux sur le travail. Vous savez si on la fera à la maison cette année, peut-être on ne pourra pas.
On peut attendre encore.
Oui, attendre, toujours attendre. On sera là, toujours comme des tempes. Dis donc quelque chose, toi.
Décidez-vous, si vous la préparez maintenant, hein. Électricité, c'est bien commode.
En éveil de ce gars de sida.
Bien, prenez-le, et on verra bien.
Les 8 premiers jours, ça a été un peu terrible, parce que, me disait, la nuit, nous, on rêve, on a des projecteurs dans les yeux, on n'arrive pas à dormir, on a ça les bouleversé complètement. Hein. Et puis alors, au bout de quelques temps, ils ont commencé à se fatiguer. Et puis alors, quand on voyait le grand bon, demain je viens, alors le grand-père, je me donne du grand-père, etc., on arrivait, oh ben le grand-père, ah ben je sais pas, il est parti garder les moutons. Où ça? Ah, mais là-bas, auprès d'eux. Alors, on cavalait là-bas à 3 kilomètres pour aller chercher le grand-père et ses moutons, parce qu'ils avaient la main un peu marre. Et puis, il y avait aussi autre chose. C'est que c'est très joli de leur prendre leur temps. Mais eux en avaient besoin. Ils avaient besoin pour labourer, pour semer, pour entretenir les bêtes, pour tout ça. Et impossible de trouver un ouvrier agricole. Alors, cette situation a changé vers le mois de juin, je crois, à peu près, quand nous avons vu dans une grande ferme, enfin, quand je dis une grande ferme, 80 hectares, c'était quand même pas mal, nous avons vu des prisonniers allemands. Alors, on s'est renseigné, on a dit, vous allez au camp du Larzac, et bon, et nous avons alors demandé à la famille s'ils étaient d'accord, ou ça a été toute une histoire, recevoir des Allemands. Et oui, parce que dans la famille, il y avait un prisonnier, hélas. Un prisonnier, il avait quitté ses parents en 37, je crois, pour faire son service militaire. En 38, Munich, il a été maintenu. En 39, la guerre éclate. Et en 40, il se fait faire prisonnier. Il avait été absent 8 ans de chez lui. Alors, admettre des Allemands, hein, c'était quand même quelque chose. Mais on dit, bon, on payera tout, vous n'allez pas vous inquiéter. Ah oui, mais où est-ce qu'on va les faire coucher? Dans la grange. Bon, alors ils ont fabriqué des lits, comme on dit, avec des sangles, des cadres avec 3 bouts de bois, etc. Ils ont même fait une table spécialement pour eux, pour qu'ils ne mangent pas leur table à eux, enfin tout un truc. Enfin, finalement, ils ont adopté. Sur les deux, il y en a un qui n'était pas fameux, qui était un feignant. Et... feignant, tiroflant, tout ce que vous voudrez. Bon, il n'a pas duré longtemps. Mais l'autre, ils l'ont gardé, bien après le film, mais quand il est parti, tout le monde a pleuré. Et l'Allemand et la famille. En 1946, le film était terminé, n'est-ce pas? Or, à ce moment-là, déjà, donc on parlait du premier festival de Cannes. Et naturellement, comme tout le monde voulait amener son film au festival, il a fallu nommer une commission de sélection. Alors, dans cette commission de sélection, il y avait des journalistes de cinéma, mais il y avait aussi un célèbre auteur, un célèbre dialoguiste français qui s'appelle Henri Janson. Or, Janson avait une particularité, c'est que la nature, lui, s'en foutait. La nature, les fleurs, les petits oiseaux, bon. Et alors, non seulement la nature, mais alors ça, les paysans, hein, les bouseux, vous voyez, la bouse de vache, alors, zéro. Or, je l'ai su par la suite, par mes amis journalistes, c'est que dès que la projection a commencé, il a commencé à lui mettre les films en boîte. Et ça a duré tout le long. À tel point qu'après, le film a été refusé. Alors, Jean Pinlevé devait travailler avec moi. Nous avions préparé le travail sur l'occupation pour faire les fameuses séquences d'image par image, les plantes qui s'ouvrent, les fleurs qui s'ouvrent, etc., etc. À la Libération, ayant été nommé directeur général du cinéma français, il n'a pas pu faire ce travail. J'ai dû donc trouver quelqu'un d'autre. Mais en tant que directeur général du cinéma français, lui voyait les rushs que moi je ne voyais pas. Vous comprenez? Parce qu'on n'avait pas la possibilité à Rodez de voir les rushs. C'est pas possible. Lui voyait les rushs et suivait le film de jour en jour, comme ça. Et puis ensuite, il a vu le film terminé. Alors, il a piqué une colère, il a écrit un article que j'ai toujours dans mon pressbook, La nouvelle bataille d'Hernani, etc. Alors, il y en avait qui étaient contre, puis qui ont tout doucettement viré leur veste. Enfin, il y a eu des tas de trucs comme ça. Alors donc, le festival de Cannes commence, et puis je reçois le coup de fil d'un ami que je connaissais bien depuis longtemps, d'ailleurs depuis 28, c'est Maurice Bessy, qui dirigeait Cinémonde. Il me téléphone un jour, il me dit, tu sais pas, Georges, on va présenter ton film à Cannes. Il dit, comment on va présenter à Cannes? Oui, on va le présenter hors festival. On va le présenter dans une salle de la ville. Et puis, à la fin du festival, j'ai un ami qui me téléphone, dis donc, tu sais que tu as un prix à Cannes? Il dit, que tu me racontes le prix à Cannes? Il me raconte, je suis pas à la sélection, on peut pas avoir le prix à Cannes. Il dit, je te dis que tu as un prix à Cannes. T'as lu les journaux? Non. Ben, va les chercher. Alors, naturellement, je cavale, je dis, je cherche le rouge, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je regarde le palmarès. Et à ce moment, j'ai compris. Après le palmarès du festival, la critique internationale cinématographique avait décerné son prix ex aequo à Brève rencontre de David Lean, c'est à ce moment-là que je l'ai connu d'ailleurs, et à Farbik. Ça a commencé comme ça. Alors après, on lui a collé le Grand Prix du cinéma français, alors je ne sais plus. En 48, à Venise, on lui a collé une médaille d'or. En 53, je tournais en Espagne, on avait un journal. À Rome, on lui avait collé le Grand Épi d'or. Enfin bref, on n'en finissait plus, quoi. Et à la suite de ça, RKO a pris le film.
RKO, firme américaine, pas firme française. Américaine, pas française.
Oui. Ah oui, parce que quand vous avez un film auquel n'a pas participé le distributeur, dans le financement duquel n'a pas participé le distributeur, vous pensez qu'après, il joue à la boule avec vous, hein ? Il joue à la balle, il s'envoie le truc pour avoir un meilleur prix, un meilleur pourcentage, etc. Vous comprenez ? C'est-à-dire au plus fort pourcentage. Enfin, finalement, on est tombé sur RKO. Bon. RKO a voulu le sortir avec Saludos Amigos, un dessin animé de Walt Disney. En comptant que c'était Saludos Amigos qui attirait les jambons. Et puis 8 jours après, c'était plus Saludos Amigos, c'était Farbik comme ça. Alors, ils ont une idée publicitaire, là, le gars qui s'appelle publicité, c'était de faire venir la famille à Paris. Et la famille est venue à Paris. Pendant 8 jours, ça a été terrible. Alors, les radios, tout le bazar, les photographes pendus à nos basques, enfin, extraordinaire. Et alors, on a décidé de faire une grande première à l'opéra. Cette grande première, ben oui, j'ai encore des photos, cette grande première devait être présidée par Vincent Auriol, qui, lui, a cédé la place à son président du conseil, qui était Ramadier. Pourquoi ? Parce que Ramadier était de Decazeville, à 25 kilomètres de Farbik.
La première fois qu'on a été à l'opéra, à Paris, pour le voir, il y avait mon grand-père qui est venu. Et il y avait le. Alors c'était Ramadier qui était président du conseil. Alors il nous a touché la main à tous. Il y avait des acteurs de cinéma, enfin des professionnels. Mais là, il y avait tous les Aveyronnais de Paris. C'était comme, s'il vous plaît. Puis on voyait très bien, puis on a dansé là-bas, on a fait la bourrée, on a fait la bourrée à 4, on avait mis une orange de bouteille, vous comprenez ? On n'avait pas vu ça. Une orange de bouteille tout autour, et il tournait autour de la bouteille, ça n'en tombait aucune.
Alors quand la famille s'est amenée dans la loge, pauvre, toute la salle fut mise debout, il faut dire que il y avait tellement eu de répercussions dans la presse qu'il s'était passé ceci. Tous les Aveyronnais de Paris, à travers leur amicale, avaient acheté tous les billets de l'opéra. À tel point que ce soir-là, figurez-vous, je n'avais même pas une place pour inviter ma mère. Au nom de Dieu. J'ai pris le mordant, je suis allé voir le chef de cabinet de Ramadier, je lui ai dit, écoutez, vous faites ce que vous voudrez, hein. À ce moment-là, moi, sans moi ce soir. Bon, enfin, il s'est débrouillé, j'ai eu ce qu'il fallait. Alors à l'entracte, parce qu'il y avait un entracte, au début ils ont voulu faire le folklore, hein, la bourrée, le machin. Ouh, moi je râlais un peu contre ça, mais enfin tant pis. Bon, à l'entracte, Ramadier a exprimé le désir de faire connaissance de la famille. Alors nous sommes sortis de la loge et dans le couloir comme ça, la rencontre a eu lieu. Il a parlé avec le grand-père, un patois, un patois et tout. Hein. Bon, enfin, et les photographes, bien sûr, par contre. N'en parlons pas. Alors quand le film était fini, extraordinaire. Et alors après, il fallait partir. Et à ce moment-là, ils se sont tous massés là-haut, sur le balcon, j'avais le grand escalier, pour voir partir la famille. Alors moi, j'avais peur que le grand-père se casse la gueule là, sur les marches en marbre, là, ou je sais pas quoi. Alors je lui donnais le bras, alors nous sommes descendus devant tous les gardes républicains, sans procureur. Là, j'ai une photo, ça, je vous assure. Non, c'était fantastique. Hein. À la suite de quoi, je ne sais plus quelle date c'était, mais pas très loin après, 2-3 jours après, je crois, la grande première a eu lieu au cinéma La Madeleine. Et il est resté quand même, pour un film sans affiche, hein, avec un titre seulement, il est resté 12 semaines en exclusivité, c'est-à-dire 3 mois. Et puis à partir de là, il est parti alors faire le tour du monde, et même en Amérique aujourd'hui, il continue toujours, hein, dans l'université, dans les ciné-clubs, des trucs comme ça.
Et qu'est-ce que dit la grotte foraine ?
Mais ça, comme vous voyez, je suis
Mais vous avez travaillé avec les filles, et alors vous ne pouvez pas travailler l'aide. Qu'est-ce que tu as dit?
Ça ne devra pas te la main, quand même. Tiens, moi, l'irriteur à la pierre, même ramasser ça.
Ce n'est pas toi qui prends le maçon.
C'est pas moi qui hériterai de faire vigle quand même. Oui, tu ne veux pas refaire à la maison avant que le partage soit fait.
Oui, il faudra bien de l'argent pour payer papa. Eh bien, pas le moment de parler à quoi. Il n'y a pas que le maçon, il faut acheter la chaux, les tuiles, les...
Oh, toi, tu as toujours peur de te noyer. Tu sais bien qu'on a passé de place ici.
On m'a appelé en France le père du cinéma vérité, ce qui est une erreur, vous comprenez. Alors ça, c'est bon. D'abord, le cinéma vérité, moi, je ne suis pas d'accord. Ça couvre tellement d'erreurs et de conneries, si je puis dire, que vraiment, là, je ne suis pas d'accord. Vous comprenez, on surprend la vérité, vous surprenez des fragments, mais vous ne surprenez pas une heure et demie de film comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le cinéma, c'est l'art de recréer la vie quand on ne peut pas la surprendre. Et 99 fois sur 100, on ne peut pas la surprendre. Alors, c'est ça le cinéma, vraiment.
Nous pourrions faire une muraille pour le terrain, faire deux combres et une autre muraille pour l'autre. Il y aurait deux combres de qui perd.
C'est justement ce que je pensais, on y ferait par là une souillarde.
Tout à coup de travail et de pêchement.
Vous voyez que c'est naturel. C'est naturel.
Le montage de ce film a duré 9 mois. C'est une véritable gestation. Et la séquence du printemps était tellement difficile que pendant 9 mois, nous l'avons repris chaque fois, toutes les semaines. Pour essayer un peu de se libérer, parce qu'à un moment, on devient abruti, on ne trouve plus rien. Hein. Et elle a été très difficile à monter. Mais enfin, personnellement, je suis très content. Encore que pour moi, la séquence la plus belle de Farbik, vraiment, elle le reste toujours. C'est la mort et l'enterrement des grands-pères. Sauguet, d'abord, la musique de Sauguet. Hein. Parce qu'à l'époque, vous comprenez, on avait les moyens, la production et les moyens. Pensez que la musique de Farbik a été enregistrée Charles Gaveau avec un orchestre de 60 musiciens sous la direction de Roger Desdormières. Aujourd'hui, malheur. Si on a encore un peu de trucs synthétiques, mais c'est tout ce qu'on peut avoir. Sinon, on a une guitare ou un truc de piano, mais c'est fini. Vous comprenez. Alors moi qui adore faire des séquences que je lis pour les livrer à la musique. Alors ça, c'est une image, je la monte, mais elle est pour toi le musicien. Alors, minutage tout précis, si quelque chose là-bas, tu me le dis, il y a des choses qu'on peut ou allonger ou raccourcir un tel angle ou un tel autre pour mieux ajuster le montage, voilà. Moi, j'adore ça. Je déteste la musique tapisserie.
Alors, après le succès de Farbik, vous êtes devenu célèbre.
Oui.
Et vous êtes devenu riche, vous avez abandonné votre métier d'ouvrier.
Non, c'est pas... Vous comprenez, c'est pas en faisant ce métier qu'on devient riche. D'ailleurs, Flaherty était comme moi, hein. Il n'est pas mort riche. Et cependant, vivant en Amérique, il a eu quand même plus de possibilités que moi. En France, c'est terrible, vous comprenez. Parce que j'ai fini par me rendre compte que j'étais taillé pour faire ça. Taillé pour travailler dans la vie, je dirais dans la vie saignante, si je puis dire, hein. Et absolument contre, par exemple, tout jeune déjà, à 13 ans, 14 ans, 15 ans, ça me foutait en boule, ça. le manque de vérité dans les films. Vous téléphonez, vous avez toujours quelqu'un, et vous faites d'ailleurs 3 numéros au lieu de 8, vous avez toujours quelqu'un au bout du film. Bon. Vous arrivez en voiture, il y a toujours une place libre au bord du trottoir, vous n'attendez pas. Ça me fout dans des rognes noires. Pour l'enterrement, j'ai mis un sac de blé de 80 kilos dans le cercueil. Pour que ça soit vrai, mon Dieu, pour que les gars peinent. Parce que le corps d'un homme, ça pèse. Et même extérieurement, ça se sent. Alors, comme je détestais tout ça, donc je suis beaucoup plus près de la vie. Quand j'ai fait mes courts-métrages, Le Tonnelier, Le Charron, on a dit Rouquet, c'est l'auteur, c'est le réalisateur des artisans. Bon. J'ai fait Farbik, on a dit Rouquet, c'est le réalisateur des paysans. Bon. Mais ça n'a rien à voir. Et je ferai tout aussi bien des films comme Farbik ou Biffer, mais sur un ajusteur routier, sur un pêcheur breton, sur un mineur, sur ce que vous voudrez, vous comprenez? Mais avec des êtres vrais. Un beau jour à Paris, je reçois un coup de téléphone d'un Américain, qui parlait très bien le français d'ailleurs, et qui me demande rendez-vous. Bon, on se rencontre, et lui dit, mais comment vous avez eu mon téléphone? Puis, je ne suis pas dans le nuire, je suis sur la liste rouge. C'est un copain à New York qui me l'a donné. Quel copain? Il n'a pas voulu me le dire. Je ne sais même pas comment il l'a eu. Et à partir de là, le magnétophone sur la table, il m'a bombardé de questions. Et pourquoi ci, et pourquoi ça, pourquoi vous faites du cinéma, qu'est-ce que vous faisiez avant, et pourquoi vous avez fait ce film, et pourquoi vous avez fait celui-là, enfin, tout, quoi. Et quand ça a été fini, évidemment, nous avions sympathisé entre-temps. Et alors, il me dit, j'aimerais bien vous inviter en Amérique, votre femme et vous, parce que ma femme était venue nous retrouver 2 ou 3 fois. Et il dit, mais malheureusement, je crois que cette année, le budget doit être mangé à plus des 3/4, hein. Il faudra peut-être voir ça plus tard, mais ça fait rien. Et puis un mois après, nous recevions une invitation officielle du doyen de l'université Cornell. Que je vienne avec des films et que je les présente et que je fasse des conférences, etc. Alors, avec les affaires étrangères, l'agriculture, etc., j'ai réuni des tas de films que j'avais passés par la valise diplomatique, parce que moi, je ne pouvais pas me payer le luxe de la douane et tout le bazar. Hein. Et nous sommes allés à Cornell, où ça a été vraiment très chouette, adorable et tout. Et puis, naturellement, entre ces projections, ces conférences, bien entendu, on parlait. Et il y en a un qui m'a dit, mais vous n'avez jamais eu envie de faire une suite à Farbik? Ah, ben j'ai dit, mais si, j'avais envie de faire une suite, moi. Quand j'ai vu la répercussion qu'avait le premier film, je me suis dit, ça vaut la peine. Parce que dans le premier film, j'avais dû modifier le scénario. On devait faire la maison, la construire, la maison. Et malheureusement, j'avais reçu beaucoup d'encouragements platoniques. Mais d'argent, point. Or, il me fallait de l'argent pour les aider, là, parce qu'ils ne pouvaient pas tout faire, hein, pour les aider un peu dans ce domaine. Donc j'ai dû changer le scénario et la maison, on ne l'a pas faite. Alors, je me disais, là, on y retourne, on fait la maison, cette fois-ci, on l'agrandit, et c'était dans l'idée de modernisation de la vétérinaire rurale. Et à l'époque, ça comptait beaucoup. Bon. Vous comprenez que dans la maison, il y a water closet, c'est déjà énorme. À la maison, il y a un évier avec l'eau courante, et l'eau froide et l'eau chaude, c'était déjà énorme. Pareil, c'est pour prendre ces exemples-là. Alors, j'ai donc essayé. Quand j'ai vu les producteurs, on m'a dit oh, « Oh, c'est pas parce que vous avez réussi votre coup une fois que vous le réussirez une deuxième, vous comprenez ?» Bon, et là, je me suis heurté toujours au même problème du titre sans affiche. Là-bas, j'ai essayé comme ça, mais je suis pas arrivé. Alors, je leur ai expliqué ça. Ils n'ont rien dit. Nous sommes rentrés. Et puis, quelque temps après, je reçois une lettre. Envoyez-nous vite, vite, vite un synopsis pour une étude de Farbik. Pendant 3 jours, j'ai travaillé comme un nègre. Ma femme recopiait mes textes pour les mettre au propre. Et on a envoyé ce projet. Au gars, voyez-vous, ici, c'est plus le cinéma ordinaire. Hein. Nous allons tourner chez des gens. Pour vous, c'est un décor. Pour vous, pour eux, c'est le lieu où ils vivent. Alors soyez gentils, pensez-y, etc. Mais c'est devenu fantastique parce qu'on arrivait pour tourner le matin, bonjour, tout le monde s'embrassait, les techniciens embrassaient les gens, tout. Et tout de suite, ah, mais je vais vous faire un peu de café, etc. Bon, mais attendez, entre deux, qu'on place l'appareil, entre deux, qu'on fasse la lumière. Ouais. Non, vraiment, un accueil formidable. Mais ça, c'était dû au fait que... Vous pas oublier ça, quand même. Farbik a eu un tel prestige dans le monde, d'une part, mais un tel prestige dans l'Aveyron et dans les départements limitrophes, que pour eux, Rouquier qui vient retourner un second film, il n'y a aucun problème. Vous comprenez? Aucun. Alors, la seule différence que j'ai trouvée, si vous voulez, est la suivante. C'est que dans Farbik, je tirais aux comédiens... phrase par phrase. Et que dans Big Far, c'était complètement différent. Dans Big Far, il pouvait apprendre une scène et la jouer d'un seul bout. Avec, bien entendu, des imperfections, un silence trop court, un silence trop long, ou des choses comme ça. Mais il pouvait la jouer d'un seul bout. Et je me suis aperçu que la nouvelle vie qu'ils ont, cette grande révolution qui a eu lieu, c'est dû, bien entendu, à tout ce que nous avons parlé, la mécanisation, l'emploi des chimies, etc., la voiture, tout ce que vous voudrez, mais aussi à l'apport de la télévision. Ça, il n'y a pas de doute, on sent bien que ces gens-là regardent la télévision, sinon tous les jours, du moins très souvent. Et c'est pour ça que l'encorpentement devant la caméra a été, si vous voulez, quand même bien meilleur qu'en 1945.
Mes moutons sont partis ce matin. Un quart d'heure après, devinez qui est arrivé.
Mon neveu.
Avec ton frère.
Hein?
Tu penses si ça les intéresse?
Vos terres se touchent. À Farbik, ils n'ont que 20 hectares.
Eh oui, c'est pas suffisant pour amortir le matériel. Ils m'offrent 350 000.
Généralement, dans les fermes, c'est ça maintenant. Une petite ferme qui se ferme, tout le monde veut l'acheter. C'est naturel, ça. Qu'est-ce que vous voulez? Tous veulent s'agrandir, alors. C'est normal.
Il faut dire d'abord cette chose, c'est que l'agriculture moderne est une agriculture spécialisée. Donc, ils ne font qu'un produit ou qu'un élevage. Et dans cette organisation, cette agriculture repose que sur la tête d'un homme. Si bien que, dans le film, entre autres, c'est pour ça que je l'ai mis exprès, si André a un accident, tombe malade, personne, ni sa femme, ni sa mère, ni son père, ne peut le remplacer dans le travail. Alors c'est l'affolement, il faut trouver des remplaçants. La chambre d'agriculture en fournit quelquefois pour des cas graves, mais c'est pas si simple non plus. Alors on fait appel à des copains qui peuvent venir aider, etc. À titre de revanche, bien entendu. Et c'est ça aussi que je voulais montrer par l'empoisonnement d'André, vous comprenez? T'as trouvé un remplaçant? Oui, il arrive ce soir. 300 francs par jour, tu te rends compte? Et encore, heureusement qu'on en a eu un. C'est ça le dialogue de Big Far.
Tout ce que vous avez vu, c'est dans les fermes. Les voies amateurs, c'est dans une ferme. Les moutons, c'est dans l'autre. C'est typique ce qui se passe chez nous. Ah oui. Nous, on fait le lait. Et on va les voir naissant. Et on fait que le lait. Il y en a d'autres qui font le lait, mais qui élèvent les veaux. Ils font de l'or solo, ils ont des porcheries, tandis que nous, on ne l'a pas. Enfin, c'est typique dans la région.
38 000, c'est quand même un bon prix, non?
Il y en a qui ont vendu jusqu'à 55 000.
55 000, 55 000. Toutes les terres n'ont pas la même valeur.
Qui c'est qui en a proposé 35 000?
Qui veux-tu que ce soit? Farvik, bien sûr.
C'est assez normal que ça les intéresse. Ils sont pas bien gras, eux.
Et ils vont faire monter les prix. Le Raoul, il a plus qu'à attendre, lui. Et Christophe a dû se mettre sur les rails, lui aussi.
C'est une bonne occasion, si elle la manque. C'est foutu pour s'agrandir.
Il faut bien comprendre, maman, que si je veux que le matériel s'amortisse vraiment, faut s'agrandir. Il n'y a rien d'autre à faire.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il nous faudra faire encore notre emprunt.
Et vous en avez déjà assez sur le dos.
Oh, si on vous écoutait.
La fiction est toute simple, donc il fallait que je trouve, alors je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il fallait que je trouve une ligne, un squelette qui tienne debout. Et il m'est apparu donc que c'était le foncier, comme je viens de vous expliquer, pour les raisons que je vous ai expliquées. Alors, je savais que Farbik avait acheté Bikefar il y avait 10 ou 12 ans. Je me suis dit, c'est la meilleure chose à faire, c'est de faire comme si cette affaire-là se traitait aujourd'hui. Voilà. C'était ça, la fiction. Alors, quand quelqu'un lâche une ferme, n'est-ce pas, il est évident que tous ceux qui sont autour, et surtout ceux qui sont prêts, se jettent dessus, en veulent, forcément. D'où les surenchères, peut-être, et tout ça.
Mais alors, là, par opposition à Farbik, vous avez aussi fait jouer des comédiens, enfin, vous avez pris aussi des gens qui n'étaient pas de votre famille, lesquels... et vous les avez mis devant la caméra. Bah, tous les tableaux collectifs des jeunes
agriculteurs. Ah oui, non, mais là, voilà, ben, j'ai étendu le problème à un territoire, parce que je me suis dit, vous comprenez, si je fais un film, alors je reviens à l'agriculture spécialisée, si je fais un film, par exemple, sur Farbik, je ne vais avoir à traiter qu'une unité laitière. L'agriculture, aujourd'hui, ça n'est pas que ça, puisqu'elle est spécialisée. Donc, pour donner quand même l'idée un peu de ce que c'est, il faudrait que j'ai un tableau général, c'est-à-dire au moins 5 fermes. Le lait, les moutons, les veaux sous la mer, l'élevage industriel, les porcs et les veaux en batterie, c'est le minimum. Et comme ça, on a quand même un tableau général. Sinon, ça me paraissait pauvre de maintenir, par exemple, à l'unité laitière. Voilà pourquoi j'ai mis tous ces gens-là dans le coup. Alors, des gens qui n'avaient pas tourné. Il a fallu que je fasse des essais, il a fallu quand même que je ne le mette pas devant la caméra comme ça. Hein. Voilà pourquoi.
Et vous donnez un tableau de l'agriculture qui n'est pas très gai. On a vraiment l'impression que les jeunes agriculteurs, maintenant, ont un sort qui est identique aux ouvriers devant une chaîne.
Alors, la question se pose, et j'en ai parlé avec pas mal de gens là-bas. Bon, sont-ils plus heureux? Alors, je retrouve là un problème que je connais chez l'ouvrier. Bon, l'ouvrier aujourd'hui, qui se défend à peu près, bon, il a sa voiture... Il a une maison, un appartement convenable avec tout ce qu'il faut. Hein. Non seulement le frigo, c'est évident, mais le lave-linge, la vaisselle, etc. Bon, s'il est un peu plus... ou s'il a fait l'économie, il a une petite maison de campagne. Enfin bref, il a tout. Est-il plus heureux? Je n'en suis pas sûr. Je veux dire par là que tout cela a été payé par tellement d'efforts que je ne suis pas sûr qu'il soit plus heureux. Eh bien, voyez-vous, là-bas, c'est pareil, hein. Parce que c'est une contrainte, vous avez remarqué, c'est pas pour rien que je mets Marcel en train de faire ses comptes à la calculette. Parce que c'est une véritable entreprise à gérer. Et parce que la gestion d'une entreprise comme ça, c'est un boulot considérable déjà. Les rentrées, les sorties, tout le bazar, tout ce qu'il faut prévoir.
Salut Raoul.
Hein, Christophe, comment ça va?
Ça va, je vais pas me plaindre.
Enfin. Un agriculteur qui est content de lui. Eh bien, ça fait plaisir, moi. Ça fait d'autant plus plaisir qu'ici, ils ont tous une gueule sinistre. Hein. Allez, viens boire un coup. Tu as fait le maïs?
Non. Pas encore.
Allez, entre. C'est toi.
Tu
qu'est-ce que tu bois? Du rouge ou du blanc?
Du rouge. J'ai encore du mansoir. Il est bon.
Alors, t'as vendu tes moutons?
Eh oui, je vends le reste. Ça t'intéresse?
Oui, un peu.
J'ai déjà reçu une proposition et j'en attends une autre. Il n'est pas encore venu. Il va pas tarder.
Je vois que je suis pas le seul. Tu n'as plus qu'à attendre que les prix montent.
Tu étais à la réunion du syndicat l'autre soir. Tu as entendu? 60 000 hectares. Et j'en connais qui ont fait monter les prix jusqu'à 80 000 pour une parcelle.
Mais c'est la spéculation.
Tu as raison. Aussi, je n'irai pas jusque-là. De l'autre côté, il faut bien que je défende l'héritage de mes frères, de ma sœur et un peu le mien. La vie est dure, Christophe. Elle est dure pour tout le monde. On a tous besoin d'argent.
Moi, je voudrais bien prendre 3 hectares.
Ah bon? Dans ce cas, il faudra que tu t'entendes avec celui qui achètera.
Bien, tiens-moi au courant.
D'accord.
Tous les acteurs ont joué à merveille, tous. Pas un seul, mais tous. Et puis c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a qui fait la valeur du ciel, le naturel. Et c'est naturel, vous voyez. Vous savez, vous avez des acteurs, le cinéma. Mais c'est pas naturel.
Dans Farbig, il y a des influences. Qui ne se voit peut-être pas toujours, mais je peux vous dire d'où elles viennent, moi. La première influence, c'est Chaplin. Alors, Chaplin, en tant que réalisateur, non pas en tant que comédien, hein, confondons pas. La deuxième influence, mais qui se rapproche de Chaplin, d'ailleurs, c'est Flaherty. La troisième influence, c'est le cinéma soviétique. Et je peux vous dire, par exemple, les images qui correspondent. Certaines images qui correspondent à la ligne générale d'Eisenstein, pardon. Et l'enterrement du grand-père, vous pouvez revoir le film qui s'appelle La Terre de Dovzhenko. L'enterrement m'a été inspiré surtout par Dovzhenko. Enfin, l'émulation que j'ai eue, si vous voulez. Bon. Et en dehors de ça, il y a encore une autre influence. C'est celle d'Alexandre Dumas. Aussi bizarre que ça l'apparaisse. J'adore Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, alors je parle des trois bouquins, hein, Les Trois Mousquetaires, maintenant après le Vicomte de Bragelonne. Dans le Vicomte de Bragelonne, vous avez ce qu'on appelle la fin des quatre. On dit qu'un jour, mais c'est une incidente, Alexandre Dumas fils retrouvant son père, le trouve triste et la larme à l'œil. Il dit, mais qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui arrive? Et Alexandre père lui dit, Porthos vient de mourir. Parce que c'est très important, il faut lire Les Trois Dumas d'André Maurois, c'est formidable toute l'explication. Porthos, c'est pour Alexandre Dumas, c'est l'image de son père, le général d'Empire, qui était un homme qui avait fait des faits d'armes fabuleux. Bon. Et là-dedans, il y a ceci. Quand Raoul, le pupille d'Atoche, par chagrin d'amour, puisque Louis XIV lui a volé son grand amour, qui est Louise de la Vallière, décide de foutre le camp avec l'expédition qui va en Barbarie faire la guerre. Le père a l'impression que c'est des adieux, que c'est le départ, que c'est la mort. Hein. Et chez lui, dans son domaine, près de Blois, il vit par la pensée avec ce fils-là. Et quand on arrive vers la fin, quand on sent que le fils est mort, de jour en jour, cet homme qui, tous les jours, sortait, faisait le tour du parc, etc., du parc. De jour en jour, ses promenades se réduisent. Jusqu'au jour où il s'assied simplement devant la porte sur un banc et ne va pas plus loin. Et jusqu'au jour où même il ne peut plus venir jusque-là. Et il reste dans son lit. Alors c'est ça que j'ai voulu traduire avec la fin du grand-père. Je prétends pas qu'elle est bien traduite. Je dirais même une chose, j'avouerais même une chose. C'est pas réussi. Enfin, dans Farbig, c'est pas réussi. Il y a cette donnée, bien sûr, elle est pas mal, mais elle est pas réussie comme j'aurais voulu les réussir. Voilà. En tous les cas, voilà les 5 influences.
Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?
C'est insecticide.
Ah. Lequel?
En prenant un paquet de lindane. Un sac m'est tombé dessus. Je l'ai pris.
Qu'est-ce que c'était, ce sac?
Du méthyl. Bladane 2.
Sans masque ni gants, hein? Naturellement. Mais bon Dieu, vous ne savez pas que c'est du poison que vous maniez, là?
Dans les films de Chaplin, vous n'avez pas, comment dire, d'esthétique du moment. Vous n'avez pas de travelling. Quand il y a un gros plan, il est là, juste, il est nécessaire. Tout le reste est bien cadré pour que l'action se voit bien. Mais il n'y a pas de tous ces effets de technique qu'on a fait depuis. Et en 1925, Dieu sait si on en a abusé. Des travelling, des surimpressions, des tas de machins comme ça. Donc c'est une écriture pure. Alors ça faisait dire à monsieur Henri Janson, justement, un jour dans un article, ça faisait dire à monsieur Henri Janson, bon, la technique, maintenant, on sait tout, puis on s'en fout. La preuve, Chaplin, la technique, il la connaît pas. Oh, il la connaît pas. Il la connaissait mieux que personne. Et c'est en étudiant ce truc-là que j'ai compris. Parce que quand vous avez une forme compliquée, les travelling, tout le bazar, la lumière qui vous demande des fois 2, 3 heures, 4 heures de préparation, finalement, quand on tombe, c'est tellement compliqué que le comédien en souffre. Il faut qu'il fasse attention à ci, à ça, à ça, etc. Et que finalement, ce qu'il doit donner, il donne pas ou il donne mal. C'est-à-dire, la forme prend le pas sur le fond. Alors, je préfère avoir des images simples, qui ne gênent pas le comédien, hein, et où le comédien puisse donner son maximum. Voilà. Tout le secret est là.
Moi, j'étais un peu au courant parce que je suis dans Paris, le premier. Ce qui fait que pour moi, pas de problème. Celui-ci, ici, c'était peut-être un peu plus difficile parce que il y a un peu plus de dialogue que sur le premier. Alors, surtout maintenant, à notre âge, vous comprenez, la mémoire n'est pas. Alors, c'est justement que des fois, par dire les phrases longues, il fallait recommencer ou les couper par le milieu pour arriver. Mais en fait, ça s'est oublié quand même.
Il m'a fait répéter des fois parce que je me trompais dans les paroles. Parce que je n'avais pas étudié le scénario. Parce que j'ai dit, si tu l'étudies, tu ne le diras pas comme il faut. Tu le réciteras. Tandis que si je ne l'étudie pas, juste avant de tourner, qu'il me dise les paroles, je répéterai tel que. Vous voyez, c'est pas. Et je pense que ça m'a aidé beaucoup, ça.
Et quand vous examinez des films de Flaherty, notamment Nanouk l'Esquimau, c'est exactement la même chose. Tout est bien inscrit, vous voyez tout très bien, vous comprenez tout, et il n'y a pas d'effet spécialement bizarroïde. Voilà, si vous voulez, tous les secrets de mon style, et forcément le montage correspondant.
Tu es bien copain, toi, avec le Raoul.
Oh, copain. Comme ça, pas plus.
Ce salaud, je lui propose 420 000. Tu entends, 420 000. Et il ne veut pas. Tu pourrais pas lui en parler, toi? Savoir ce qu'il a, ce fils de pute?
Lucien!
Toi, tais-toi.
Non, je peux pas.
Et pourquoi tu peux pas?
Je peux pas parce que mon frère m'a demandé de m'occuper de cette affaire pour lui.
C'est ça, alors tu joues contre nous.
Et qu'est-ce que tu crois que je fais, bon Dieu? Je transmets les offres de mon frère, c'est tout.
C'est bien ce que je dis. Tu joues contre nous. Me faire ça à moi, ton beau-frère?
Cher Colut, mon frère est malade, tu le sais pas, non? Je peux pas lui refuser ça, quand même.
C'est une occasion unique pour agrandir Bourrel, si on manque cette affaire. Nom de Dieu, tu entends, Henri? Je te parle plus. Je veux plutôt voir ici.
Mais Lucien, arrête! Laisse-le faire, ce grand couillon. Nous deux, on se fâchera jamais.
Vous savez, si quelqu'un me vexe, attention. quand j'explose, ça y va. D'ailleurs, il a étudié les personnages avant de donner les rôles. Oui, il nous a étudié, il a dit toi tu feras ce rôle, toi tu feras ce rôle. Et c'est normal, c'est normal.
Est-il évident que vous ne pouvez pas faire un film sur des agriculteurs si vous ne montrez pas un peu leur travail. Leur travail d'ailleurs servant de calendrier. Ainsi par exemple, Henri est en train de travailler son jardin au printemps, les arbres sont en fleurs, on lui annonce la maladie de son frère. Bon. Ben après, vous avez la fenaison. Tout le monde sait bien que la fenaison, c'est pas au mois d'avril. C'est au mois de juin. Bon. Après, vous avez l'ensilage, qui est encore plus tard. Mais là, on voit bien que c'est l'été, puisqu'il y a des feuilles aux arbres partout, etc. Donc, si vous voulez, ça me servait aussi des calendriers, d'une part, et de montrer, d'autre part, ce que leur travail était devenu. La première question, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est d'abord qu'il soit à l'aise. On tourne en copain, la caméra ça compte pas. Nous on travaille la pellicule, eux travaillent la terre, bon et après, il n'y a pas de différence. Nous travaillons tous. Bon, donc si vous voulez, il n'y a pas ce côté guindé qui pourrait être, si c'était le cinéma vraiment et tout ça. Et c'est de les mettre à l'aise et qu'ils soient eux-mêmes le plus possible. C'est ça le problème, mais c'est une question de préparation psychologique, c'est tout. Et d'oublier la caméra, le plus possible.
Écoutez, la dernière vente que je connais, c'était 60 000 hectares.
Où ça?
Du côté de Compoliva. À ce prix-là, comment voulez-vous qu'un jeune agriculteur puisse faire son partage de famille, s'agrandir, se moderniser, et surtout que, j'en ai peur, les prix ne vont pas s'arrêter là.
La parole est à Raoul Pradal.
Vous pouvez toujours parler du foncier, tant que vous voudrez. Il n'y a qu'une solution, et une seule. C'est que les communes, avec l'aide de l'État, deviennent propriétaires des terres cultivables. Et nous, aux agriculteurs.
Mais il a raison, on sera tous fonctionnaires.
Si on le laisse faire, on ira bientôt tous travailler en colcose.
Mais on n'est pas en Russie ici.
Le droit de propriété est intangible en France.
Ça serait.
Chaque fois qu'on reparle du problème foncier, c'est toujours pareil.
Viens me les prendre, mes terres, puis on verra.
Bordel, on est capable de foutre la révolution, nous.
C'est tellement difficile, vous comprenez ce que je fais. Je parle pas de faire le travail. Quand je fais le travail, la difficulté a disparu. Mais c'est tellement difficile de réunir les moyens pour faire ce travail. Toujours pour la même raison. Moi, j'adore tourner avec des gens qui ne sont pas comédiens. J'adore être près de la vie, près de la vérité, ne serait-ce que par les gueules, les mains, les gestes, tout ça. Aucun comédien pourrait me donner ça. Bon, j'adore faire ça. Mais en contrepartie, les financiers rechignent. Parce qu'ils n'ont pas, comme on dit, d'affiches, encore une fois. Et à ce moment-là, même mettre des sommes modestes, parce que tout de même, 4,5 millions, c'est une rigolade, vous comprenez. D'autant plus que sur ces 4,5 millions, vous avez exactement les mêmes exigences techniques. Il faut de la pellicule, il faut développer, il faut tirer, il faut monter, il faut du son, il faut. Vous avez les mêmes, pratiquement.
Certains parlent de Robert Bresson en voyant vos films.
Ah ben écoutez, on en a déjà parlé pour Farbik. Tout simplement parce que j'ai une certaine rigueur. Et je pense que la rigueur, elle est intérieure. Elle est interne, si vous voulez, au film. La rigueur est interne au film, mais elle est interne aussi par l'aspect que je lui donne. Pas de concession à l'esthétique du moment, pas de... Vous savez, les travelling, tout ça, tous ces machins. Moi, il faut que ça vienne. Comment vous dire? Il faut que ce soit une nécessité. Quand le travelling est amené par l'action, on s'en aperçoit même pas. Ce que je déteste, ce sont les mouvements d'appareil gratuits. Les travelling, les panoramiques, les effets qui sont, vous comprenez? Alors je me réfère toujours, enfin, j'ai toujours dans la tête le réalisateur Chaplin et le réalisateur Flaherty. Il n'y a pas de problème. L'écriture la plus simple et la plus pure possible.
Et vous n'auriez pas envie de faire une fiction totale avec des comédiens professionnels?
Écoutez, j'ai essayé, là. J'ai essayé, puisque j'ai fait Sang et Lumière avec Daniel Gélin et Zaza Gabor. Bon, ça a été affreux pour moi, enfin. Ensuite, j'ai voulu essayer, en faisant SOS Neuronia entièrement tourné en Corse. On avait bâti un décor qui servait à la fois d'intérieur et d'extérieur. C'était merveilleux. Mais le carcan financier qu'imposent ces productions ne me conviennent pas. Et puis d'autre part, il faut bien dire ce qui est... Bon, j'ai voulu essayer, c'est vrai, mais il a bien fallu que je me rende compte que j'étais fait pour ce cinéma-là et non pas pour l'autre.
Bonjour. Ça va, oui.
Bonjour, là. Ça va? Je vous connaissez?
Non, je ne vous connais pas.
L'évêque de Rodez.
Ah, on a fait gaffe, oui.
Parce que j'avais vu le film de Farbik quand j'étais jeune.
Vu.
Ah, oui, oui.
Vous l'avez
quand
vu.
J'étais jeune, là, j'étais pas encore prêtre. Et alors, je tenais à voir celui-là. Hein.
Eh bien, écoutez, monseigneur, je suis très, très, très content.
Ça t'a plu, bébé?
Très bien.
Oui, avec ton mieux.
On n'était pas content, au début, et maintenant, je suis content.
Tu es content, avec ton mieux. Tu l'as dit à Georges? Tu l'as dit à Georges?
Très content, très content.
Tu l'as dit à Georges?
Oui, oui, oui.
Eh bien, c'est bien.
Je suis content.
Eh bien, oui.
Très content.
Et pardi.
Je suis très content.
Oui. Monseigneur l'évêque est pas venu te parler.
Je suis ici.
Je crois que la saga des Rouquiers. Elle est terminée là, hein. Elle est terminée là, la saga des Rouquiers. C'est fini maintenant. Et puis je suis trop vieux, mes enfants. Alors.
Oui, il te faut la retraite en temps.
Oui, peut-être un peu.
Ouais.
Bien là-bas, merci.
Elle est chouette, hein.
T'as réussi à me faire pleurer.
Quoi?
T'as réussi à me faire pleurer.
Ouais, ouais. Mais je sais, mais il n'y a pas que toi.
Ouais.
Heureusement.
Bon, allez.
Alain Nédélec, Jean-Pierre Gerbault, Josette Collin, Laure Adler, pour ce spécial donc Georges Rouquier. Big Phare, vous pouvez le voir dans de nombreuses salles en ce moment, mais pour voir Farbik, il va vous falloir attendre quelques semaines. Le film va être projeté d'ici 2 ou 3 semaines.
C'est naturel. C'est naturel. C'est naturel, ça.
Nuit magnétique, demain encore un nouveau magazine qui s'intitule Fanzine radiophonique, uniquement pour les Chébrants. Il est fait par Jean Couturier et Irène Omelianenko. Nuit magnétique, à demain donc, bonsoir.
C'était Nuit magnétique, Big Phare, Farbik, avec Georges Rouquier, une émission de Laure Adler, réalisée par Josette Collin, première diffusion sur France Culture le 5 avril 1984. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
I drove in on the four lane, where the two lane used to be. The highway hummed a near forgotten tune from 1963, the year I turned 18 and set my sights and heard the highway call. Now the highway's come full circle to a place I scarce recall. There's a girl I still remember whose name I can't recall. I gave her what I had, but then she tried to take it all. And I stayed long enough to love her and then left her on the run, like a flower left to wither in that deep East Texas sun. There's a place out on the highway where I go to spend my time, where the bartenders all know me and the players are friends of mine. And we light up on the breaks and talk of things that we all know, but I've heard it all before and I'll hear it all again. Heard it said, the highway never ends. So what about old handsome Johnny and the class of 64? Did the women all make promises when they shipped him off to war? Did his mama get the medal? And did his country ever win? Well, let's drink around to Johnny, 'cause he died for all our sins. They're still down there in the factories. You can see them in the mills. They've sweated there for years, Lord. I guess they always will. And you know they won't be leaving. I can't watch them die that way. So in my rearview mirror, I'll just watch them slip away. There's a place out on the highway where I go to spend my time, where the bartenders all know me and the players are friends of mine. And we light up on the brakes and talk of things that we all know, but I've heard it all before and I'll hear it all again. And I've heard it said, the highway never ends. The highway never ends. Never end.